Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Gilles Perret, le réalisateur de Debout les femmes, invité du cinémateur à la Grenette. Il nous parle de ce documentaire à la rencontre des travailleuses du lien social.
Reportage à Flériat, des salariés de l'hôpital ont manifesté. Ils demandent plus de moyens humains pour offrir un meilleur accès aux soins à leurs patients.
Et la directrice de l'hôpital de Bourg fait le point sur les conséquences de la nouvelle vague du Covid.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourg en bref.
Le personnel de l'éducation nationale mobilisé pour exprimer son ras-le-bol.
Ils étaient 400 dans les rues de Bourg-en-Bresse jeudi dernier, un appel à la grève nationale. Professeurs, mais aussi parents d'élèves, accompagnants d'élèves, directeurs et même des inspecteurs académiques, tous réunis pour dénoncer l'incohérence de la succession des protocoles imposés par le ministère de l'éducation nationale. On écoute des professeurs venus manifester.
Plus d'infirmiers, d'infirmières scolaires, plus de médecins scolaires. Alors, chers collègues, chers camarades,
pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Le protocole et tous ces changements continus, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, on est toujours en train de chercher des remplaçants constamment. Et en fait, il n'y a rien qui est fait. Et on est toujours en train de nous montrer du doigt pour dire qu'on ne fait pas d'efforts, qu'on n'est pas en train de faire notre métier. Alors que si, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de moyens humains qui sont donnés pour pouvoir réaliser notre boulot. Ça n'intéresse plus personne d'être prof aujourd'hui. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a les gens qui sont recrutés, ils démissionnent.
C'est quoi votre quotidien de travail ?
C'est un sketch. On téléphone, on renvoie des enfants, on demande des attestations, ils reviennent. Le protocole a changé 3 fois en 2 semaines. On n'en peut plus, on est épuisé. On n'a pas le temps d'avoir lu le protocole que les enfants arrivent et qu'il faut leur annoncer une nouvelle chose. C'est insupportable. Depuis la rentrée, on a eu 6 masques en tissu à la rentrée et c'est tout ce qu'on a pour se protéger. Donc, on finance nous-mêmes nos masques. Est-ce que c'est normal ?
Maintenant, il y a le protocole qui vient de changer. On ne récupère plus les enfants le lendemain. Quand ils sont négatifs, on les récupère dans la journée même. On les garde jusqu'au soir. Donc ça veut dire aussi qu'ils peuvent quand même contaminer si jamais ils peuvent se recontaminer entre eux. Enfin bon, bref, ça change tout le temps. Je suis même pas sûr d'avoir dit exactement comment fonctionne le protocole, étant donné que c'est toujours mouvant, en fait.
J'ai été positive la semaine dernière et que j'ai été remplacée sur 3 jours et demi, une demi-journée. Aux parents de se débrouiller pour garder les enfants.
Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ?
Les remplaçants quand les enseignants sont malades ou absents.
Ben, nous, ce qu'on demande, c'est un protocole simple, cohérent, peut-être, si besoin, les fermetures de classe quand on a des cas avérés dans les classes et un vrai respect pour les familles, enfin pour nos élèves, pour leurs familles aussi, parce que les parents, c'est compliqué pour eux aussi.
On demande simplement un peu de reconnaissance et qu'on arrête de nous mépriser en disant, par exemple, dans les protocoles, qu'on est très bien protégé grâce aux masques de l'éducation nationale, alors que on a des masques depuis le 2 septembre. 6 masques.
Et comment vous vous sentez personnellement ?
Moi, j'en ai ras-le-bol. Et c'est ce que je ressens un peu à droite à gauche quand j'en discute avec les collègues. Et c'est vraiment... Et pas seulement avec les collègues, quand je suis au portail avec les familles, c'est la même chose, quoi. Les gens, ils n'en peuvent plus, en fait.
Il y a de la fatigue, il y a un ras-le-bol de ce mépris, on se sent méprisé, ouais.
Et le syndicat CGT Éducaction demande aussi des masques FFP2 pour les professeurs et des capteurs CO2 dans les classes. Jeudi dernier, 150 écoles du département étaient fermées, selon l'Académie de Lyon, pour des cas Covid.
Un lieu d'accueil pour les femmes a ouvert à Bourg-en-Bresse.
Un endroit qui permet aux femmes dans le besoin de venir en lieu sûr. Elles sont accueillies par des travailleurs sociaux et peuvent être aidées pour tout type de démarche administrative ou simplement pour venir discuter. Un psychologue est aussi sur place. L'accueil de jour pour femmes est situé 12 place Caria à Bourg et c'est ouvert de 13h30 à 17h du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h30 à midi. Et pour plus d'informations, c'était au 04 74 32 55 93.
La préfète Catherine de la Robertie quitte l'Ain.
Elle a passé seulement un peu plus d'un an dans le département et c'était la première femme préfète pour l'Ain. Un départ sans explication, mais le nom de sa remplaçante est déjà connu, Cécile Bigot-Dekaiser. Elle va partir des Landes pour venir dans notre département.
Besoin de plus de places en crèche, dans les écoles ou encore dans les hôpitaux ?
Pour savoir quels équipements collectifs sont nécessaires, les collectivités publiques s'appuient sur les chiffres du recensement. Burgien-Burgienne, la nouvelle campagne commence ce jeudi 20 janvier et c'est jusqu'à fin février. Tout le monde n'est pas concerné. Les sélectionnés recevront un courrier et bientôt la visite d'agents recenseurs avec une carte officielle. Ils déposeront un questionnaire ou vous proposeront de le remplir en ligne. Il est obligatoire d'y répondre et les réponses restent anonymes et confidentielles.
Bientôt une maison du cirque dans le quartier du Pont des Chèvres à Bourg.
La première pierre du futur bâtiment a été posée symboliquement le week-end dernier. Un nouveau lieu dédié au spectacle vivant et à l'art du cirque. Il permettra aussi de rendre plus attractif un quartier assez résidentiel. La maison du cirque sera entièrement installée au printemps 2023, place Alphonse Dupont. Ce sera un bâtiment écologique de plus de 1000 mètres carrés. Son coût est de 4 millions d'euros, financé par la ville, avec l'aide de la région, de l'État, de l'Agence nationale de rénovation urbaine et du Grand Bourg Agglomération.
Trier ses masques jetables, c'est possible.
L'agglomération du Grand Bourg met en place des bornes pour déposer vos masques usagés. À Bourg-en-Bresse, vous pourrez les déposer par exemple à la station à côté de la gare ou à la piscine Carré d'eau. À Morvelle-en-Bresse, au centre culturel et à Saint-Trivier-de-Courte, à l'espace Caronnière. Après avoir lancé un marché public, l'agglomération se tourne vers une société girondine appelée Kinat. Ces masques recyclés deviendront des granulés de plastique avant d'être des plaques signalétiques.
2 minutes, une actu.
Inès, vous faites le point sur la situation au centre hospitalier de Bourg pour cette nouvelle vague du Covid.
La direction du centre hospitalier de Fléria a organisé un point presse la semaine dernière. On écoute Frédéric Labrogoubi, directrice de l'hôpital.
On a 11 patients Covid à ce jour qui sont pris en charge dans l'établissement. Et concernant les services de médecine Covid, on a 20 patients qui sont actuellement pris en charge dans l'établissement. Donc au niveau, je dirais, de l'établissement, on pourrait imaginer effectivement, et c'est une réalité, hein, que le volume de patients n'est pas aussi important que l'on a eu lors des vagues précédentes. Pour autant, je rappelle que ces organisations-là, elles sont largement au-dessus de nos organisations traditionnelles et elles ont impliqué de fait un redéploiement des professionnels pour monter en charge, notamment sur la réanimation, mais aussi sur les lignes médecine où, par exemple, on a identifié l'intégralité du service d'infectiologie pour accueillir les patients Covid.
Et le docteur Nathalie Canu était aussi sur place. C'est la référente médicale pour la crise Covid-19.
Là, on vous dit actuellement 20 patients Covid, donc en phase encore d'isolement, donc en phase aiguë de leur pathologie actuellement. Mais c'est 20 aujourd'hui, mais la semaine dernière, c'était 41, puis c'était 38, puis etc. Donc tous ces patients, ça s'accumule en fait. Hein. Un chiffre un jour donné, il ne vous donne pas le reflet de la vague qui est en train de passer en fait. C'est à la fin de la vague qu'on vous dira exactement combien de patients on aura eu d'hospitalisés sur cette vague-là. Et vous verrez que nous avons eu un nombre conséquent de patients. Nous avons aussi des anticorps monoclonaux que l'on a pu administrer à un assez grand nombre de patients dans l'établissement, ce qui fait que les hospitalisations ont été de beaucoup plus courte durée. Donc en fait, on a moins saturé nos lits parce que nos patients sont restés hospitalisés moins longtemps. Donc ça ne veut pas pour autant dire qu'on a eu moins de patients au final sur cette vague par rapport à d'autres vagues. On pourra comparer ensuite. Mais je ne suis pas convaincue qu'on en aura eu beaucoup moins, en fait.
Le docteur Nathalie Canu nous explique le nouveau profil des patients Covid.
On est sur une filière de patients qui n'avaient pas fait le choix de la vaccination. Et puis, sur une patientèle qui est plus jeune, très clairement, qui impacte beaucoup plus effectivement les moins de 40 ans, avec donc une filière un peu plus chargée sur la maternité, en lien avec effectivement la contamination des femmes enceintes, et puis des enfants effectivement atteints de Covid, que malheureusement, ces femmes enceintes, elles sont théoriquement faites pour donner la vie, dans de bonnes conditions, mettre au monde des enfants qui vont être bien portants et bien pouvoir se développer, et qu'une femme enceinte qui fait une pathologie infectieuse aiguë, c'est jamais de bon augure. Elle met sa vie en danger, et puis surtout, elle met potentiellement la vie du bébé en danger, avec des naissances qui sont prématurées, des enfants qu'on est obligé de faire naître par césarienne, pour pouvoir aider la maman sur un plan respiratoire avec nos collègues de réanimation, et donc forcément des enfants qui vont aller vivre leurs premiers jours en couveuse, en néonatologie, dans le meilleur des cas, quand tout se passe bien. Donc un peu moins d'une dizaine de cas de femmes enceintes qui ont dû être effectivement accompagnées en urgence pour faire naître leur bébé et pour être prises en charge sur un plan purement respiratoire, en réanimation, et qui ont bien passé le cap, des enfants qui a priori vont évoluer favorablement, mais qui de fait subissent effectivement des soins de néonatologie, de réanimation, qu'ils n'auraient peut-être pas subi effectivement sans ce Covid et sans le fait que leur maman soit malade.
La directrice de l'hôpital rappelle que le plan blanc est toujours en vigueur. Pour rappel, il consiste notamment à réorganiser les services hospitaliers pour accueillir des patients Covid. Cette mesure exceptionnelle pourrait néanmoins être levée partiellement dès cette semaine.
Le plan blanc est toujours activé dans l'établissement puisqu'on est encore sur des mesures dérogatoires aux organisations, comme je le précisais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a... le directeur général a ouvert un peu la porte sur, tout un ensemble d'éléments épidémiologiques, sur la possibilité de commencer de façon raisonnée, je reprends ces termes, une activité de chirurgie ambulatoire, mais qui concernerait toujours des patients qui ont des risques de perte de chance importants. Donc il se trouve que l'établissement réalise un certain nombre d'activités de chirurgie cancérologique aussi en ambulatoire. Donc on va pouvoir certainement reprendre en fait ces créneaux-là pour remettre des patients, notamment en scénologie, c'est des activités qu'on peut faire en ambulatoire. Donc on va pouvoir prendre en charge aussi plus de patients sur le volet d'hospitalisation conventionnelle.
Pour garder le pass sanitaire, il faut avoir fait sa dose de rappel, la troisième dose, depuis le 15 janvier pour les adultes. Une exception pour les personnes vaccinées tardivement. Votre pass reste quand même actif jusqu'à 7 mois après la deuxième injection.
L'invité de Radio B.
Le réalisateur de Debout les femmes était à la Grenette, mercredi.
Gilles Perret était l'invité de l'association Le Cinémateur pour présenter son nouveau documentaire sur les travailleuses bien sociales. Il a été réalisé avec le député de la Somme, François Ruffin. Dans ce film, François Ruffin fait équipe avec son collègue député du Rhône, Bruno Bonnel. Opposés politiquement, les deux parlementaires vont s'associer pour tenter de revaloriser les salaires de ces travailleuses du lien social, qu'elles soient aides-soignantes ou femmes de ménage. Des métiers très mal rémunérés, avec de grandes amplitudes horaires. On suit ces femmes dans leur quotidien pour comprendre leurs conditions de travail et l'importance de leur métier pour aider les autres. On voit aussi tout le travail parlementaire pour présenter une proposition de loi pour les soutenir et qui, malheureusement, sera un échec, du moins dans le film. On écoute la bande-annonce du documentaire.
Bonjour.
Bonjour. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot. Tu m'as fait rencontrer tes collègues.
Voilà.
Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien. Là, tu me fais faire beaucoup de boulot à cause
de toi. Ah oui, c'est vrai.
Puis alors, quand j'ai eu la mission, m'ont foutu un autre apporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel.
Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale.
Bruno Bonnel, je me dis putain, pourquoi ils mettent cette tête de con.
On n'entendait pas souvent parler des métiers d'auxiliaires de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous.
C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour. Enfin, ça prend au trip, quoi.
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
Je me réveille à 4h30, on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent à 22h30.
Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi.
Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là?
C'est l'évidence.
Donc toi, t'es une travailleuse pauvre.
Je suis une travailleuse pauvre.
Mais on a notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça.
Nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent.
Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir.
T'as faut y croire. Rejeté, 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 rejeté.
Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, être payés 3 heures à 10 euros. Vous laissez faire ça.
Tes collègues, j'en ai marre.
Nous toutes, on doit être toutes ensemble, les femmes debout.
Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Juste avant la diffusion du documentaire « Debout les femmes à la Grenette », j'ai retrouvé le réalisateur Gilles Perret dans le hall du cinéma pendant que de nombreux Bressans achetaient leurs billets. Bonsoir Gilles Perret.
Bonsoir.
Donc aujourd'hui on est à la Grenette et vous allez présenter votre film « Debout les femmes » réalisé aussi avec le député François Ruffin. Donc déjà, comment est venue l'idée de ce film ?
En fait, à l'origine, c'est François qui m'a proposé de faire ce film parce qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. On avait déjà fait « Je veux du soleil » ensemble. Et en fait, on voulait depuis longtemps faire un film sur pendant son mandat de député, sur l'Assemblée nationale, sur un projet de loi, sur des amendements. Et puis l'occasion ne s'est jamais présentée parce que, d'après François, il ne se passe rien à l'Assemblée nationale puisque tout est décidé par le président de la République. Et donc, certes, le décor est joli, les figurants sont sympas ou pas, mais en tout cas, bon, donc comme il ne se passait rien, on n'a pas trouvé de support à film jusqu'à ce qu'on lui confie une mission d'information parlementaire sur les métiers du lien. Donc tous ces métiers qui concernent quasiment exclusivement des femmes, comme les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, femmes de ménage, etc. Donc on s'est dit que là, il y avait support à film et ça, c'était avant le Covid. Et puis ensuite, on lui a nommé un co-rapporteur sur cette mission, la personne de Bruno Bonnel, qui est bien connu dans notre région. C'était le candidat de La République En Marche sur la région Rhône-Alpes. Et là, il y avait encore plus support à film parce qu'il y avait potentiellement de la confrontation. Puis à duo au cinéma, ça marche plutôt pas mal, ce qui est, je crois, le cas dans le film.
Comment ça s'est passé, la relation avec François Ruffin, tout au long du film ?
On se connaît depuis longtemps, hein, donc ça fait 15 ans, on est copains dans la vie. Et puis je crois qu'on est surtout très complémentaires de par nos caractères. Lui qui est plus volcanique, on va dire, avec des hauts, des bas. Et puis moi qui suis peut-être qui a un caractère un peu plus régulier. Puis surtout, on est complémentaires dans le travail, puisque lui est à l'image. C'est lui qui stimule les réactions, c'est lui qui mène un petit peu tout ça. Et moi, je m'occupe d'emballer par l'image, d'emballer un petit peu tout ça pour faire un film, quoi. Et donc du coup, comme on se connaît bien, on n'a pas besoin de trop se parler et on est assez vite finalement dans l'ambiance avec un procédé de tournage qui est très minimaliste. On n'est que les deux dans sa voiture pourrie, donc c'est assez simple comme technique de tournage. Quoi.
Et qu'est-ce que vous avez préféré donc, dans la réalisation de ce film ?
Préféré, nous quand on fait des films, on essaye de faire des films qui aient leur place au cinéma, donc on essaye d'aller de mettre de l'humour, on essaye de mettre de l'énervement, on essaye aussi de mettre des larmes, donc il y a pas mal d'émotions dans ce film-là. Et donc ce qui m'a le plus marqué, c'est d'être plongé pendant le premier confinement auprès de ces auxiliaires de vie sociale qui finalement étaient les seules personnes qui bougeaient dans les villes pour passer d'une personne âgée à une autre. Et avec ce climat qui, si vous vous souvenez, ce climat de terreur qui avait été instauré. Et puis finalement, ces femmes qui, contre vents et marées, circulaient à droite à gauche et on s'est retrouvés dans des situations qui étaient très fortes, très émouvantes, auprès de personnes âgées qui étaient très seules et qui voyaient un rayon de soleil dans la journée, c'est quand l'AVS passait le seuil de la maison, quoi.
Est-ce que vous pouvez raconter un moment du film qui vous a marqué, une rencontre ?
Je pense que je me souviendrai longtemps qu'à un moment donné, on arrive à Dieppe qui est une ville communiste dans laquelle ils ont décidé de municipaliser le personnel, les auxiliaires de vie sociale. Ils ont intégré au personnel municipal pour les stabiliser dans la vie et puis pour surtout qu'elles aient des revenus à peu près corrects. Et donc on est allé là-bas pour cet exemple et on est arrivé à Dieppe pendant le confinement et la première personne qu'on est allé voir, on avait rendez-vous avec un AVS, on ne se connaissait pas, confinement, donc il fallait se tenir à distance, enfin, on avait des gants trop petits, il n'y avait plus de gants, il n'y avait plus de masques, donc la mère de François nous avait fait des masques, donc on est arrivé dans une situation qui était quand même hyper tendue et la première personne qu'on est allé voir, c'est Madame Michaud que vous verrez dans le film et qui vit seule depuis 2 ans, elle ne s'est jamais levée depuis 2 ans. et qui n'a plus de famille. Et donc, du coup, on arrive dans cet appartement sombre, en sous-sol. Et là, on voit vraiment ce que c'est que, à la fois, la solitude, la vieillesse et la force que peut amener une auxiliaire de vie sociale qui vient voir cette femme qui, malgré toute la situation dramatique, garde ce sens de l'humour. Et du coup, même nous, on avait tendance à prendre sur nous toute la charge émotive et la tristesse de la situation. Et finalement, c'est elle qui a réussi à nous remettre le sourire, quoi.
Ce film, selon vous, il a quel objectif ?
L'objectif du film, il a été quand même déjà atteint, puisqu'on avait, il est sorti mi-octobre, qu'il y a eu beaucoup de spectateurs qui sont venus le voir, un très bon bouche à oreille, et il a eu des conséquences, notamment à l'Assemblée nationale, puisqu'au dernier vote du budget, la majorité en place a tellement été mise en porte-à-faux par ce film devant leur inaction et leur mépris pour ces métiers-là et leur mépris de classe sociale, que finalement, la majorité a fini par avoir mauvaise conscience. Ils ont dû en lâcher un peu plus. Donc il y a eu des primes qui ont été doublées, il y a eu un seuil sur le prix de l'heure pour les auxiliaires de vie sociale. Et à chaque fois que ces décisions ont été prises, ils ont mentionné le fait qu'ils étaient quand même beaucoup plus efficaces, cette majorité-là, que ceux qui allaient faire les malins sur les écrans de cinéma, quoi. Donc c'est bien que le film les a dérangés, et tant mieux, nous on est là aussi pour ça. On est là pour faire des films de cinéma, mais on est aussi là pour qu'il y ait aussi une portée, et que si on a pu contribuer à améliorer un peu le quotidien de ces centaines de milliers de femmes, bah, tant mieux, quoi.
Et donc là, ce soir, vous présentez au public ce film, donc j'imagine que vous l'avez fait plein de fois. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ces rencontres avec les spectateurs ?
Ben moi, j'essaie d'amener des compléments de ce qu'il n'y a pas dans le film et puis mettre un petit peu d'informations, peut-être à la fois rigolotes sur des anecdotes, mais aussi d'amener un peu plus de contenu qu'on n'a pas forcément pu amener parce qu'on ne peut pas tout dire dans un film. Et puis le but d'un film, il faut que ce soit dynamique et qu'on ne s'ennuie pas. Nous, on essaie de faire des films qui ne soient pas trop chiants. Et donc du coup, on amène ce complément. Puis moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de venir à Bourg-en-Bresse avec Cinémateur parce qu'ils ont passé tous mes films et que je me fais un peu un devoir d'aller là où je suis plutôt bien accueilli. Et puis il y a aussi, je crois, un public qui suit mes films. Et donc c'est normal que je vienne là où on m'attend. Voilà. Enfin, on m'attend. Pas non plus se prendre pour ceux qu'on n'est pas, mais en tout cas, de renvoyer un peu la balle pour les cinémas qui passent nos films, quoi.
Parmi ces anecdotes que vous racontez, il y a quoi, par exemple ?
Non, il y a des trucs rigolos, c'est que notre attelage avec François, c'est un peu, il y a beaucoup de débrouilles, beaucoup de choses qui se font rapidement, hein. C'est un road movie, donc on essaye de capter des moments de vie, de s'installer, de forcer un peu les portes par moment, mais il y a un moment où moi je fais l'image, je fais le son, François il mène les interviews, il conduit, tout, donc on en fait beaucoup, donc on ne fait pas tout bien, et à un moment donné, il y a une séquence où, au film où... on est en train de prendre de l'essence et François est au téléphone en discussion avec son attaché parlementaire et du coup il y a l'essence qui déborde et François retire sa carte en fait, et si on regarde bien l'image qui n'est pas montrée dans le film, mais c'est juste qu'il pose sa carte sur le toit de la bagnole, la carte bleue, et évidemment on est parti, on a perdu la carte, quoi. Donc ceux qui observent bien le film, ils peuvent se dire qu'il y a un problème, mais en fait les spectateurs sont pris par la discussion et voient pas que, en fait, voilà. Donc il y a des petites anecdotes un peu rigolotes comme ça, mais sinon il y a plein de choses à raconter. Dans la relation avec Bruno Bonnel, etc., qui est quand même une relation d'amitié, parce que voilà, il y a une question de relation humaine, mais avec quelqu'un avec qui on partage à peu près rien dans les idées. Mais ça n'empêche pas que Bruno Bonnel, dans ce truc-là, est quelqu'un de sincère. Et ça nous permet aussi, nous, de raconter que, en gros, c'est pas avec la bonne conscience qu'on fait changer les choses, c'est par la loi. Et la loi, ben, elle s'applique à tous, et c'est là qu'on ferait vraiment changer le quotidien de ces centaines de milliers de femmes.
C'était Gilles Perret, le réalisateur de Debout les femmes. Il est originaire de Haute-Savoie. Il est en train d'y tourner une fiction cette fois. Son nom, Reprise en main. C'est l'histoire d'ouvriers qui reprennent leur propre usine des mains de leur patron. Et vous pouvez encore voir le dernier documentaire de Gilles Perret, François Ruffin, Debout les femmes à la Grunette à Bourg-en-Bresse, ce mardi 18 janvier à 17h ou à 19h30.
Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien. Pouf !
En reportage avec Radio B.
Mardi dernier, certains soignants et employés de l'hôpital Fleuria se sont rassemblés devant leur lieu de travail pour à nouveau demander plus de moyens et surtout de bras pour travailler dans de bonnes conditions. Ils étaient une cinquantaine.
Bonjour.
Bonjour, Emmanuel Texier, donc je suis représentant du personnel à l'hôpital, je suis aide-soignant de métier. On organise cette manif tout simplement parce que l'état de l'hôpital public n'a de cesse de se dégrader au fil des années. La pandémie, en fait, est simplement une goutte d'eau en plus qui vient se rajouter et qui va faire craquer, et qui est en train de faire craquer l'hôpital, tout simplement. Les professionnels, soit sont en burn-out, soit sont en épuisement physique ou moral. Et du coup, les gens, pour se prémunir, se partent de l'hôpital, soit se reconvertissent, soit partent dans d'autres structures, en fait, tout simplement.
Est-ce que vous avez réussi à chiffrer un peu les gens qui ont décidé de partir ?
C'est compliqué de le chiffrer, surtout qu'on a des chiffres un peu contradictoires fournis par la direction par rapport à ce que nous, on peut voir par ailleurs. Nous, on l'a quantifié autour d'une centaine de personnes rien que pour l'année 2021. Les personnes que j'évoque, c'est les gens qui sont partis de l'hôpital, donc soit en disponibilité, soit des gens qui ont démissionné de l'hôpital, soit qui ont mis fin à leur contrat, parce qu'on a des gens qui sont contractuels. Donc nous, à l'hôpital, la problématique, c'est qu'on sent très très clairement un glissement d'un service public à une privatisation de la médecine, privatisation du soin, qui va aboutir immanquablement à la mise sur le banc de gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner.
Je suis aide-soignante à l'hôpital, j'ai commencé en tant qu'ASH depuis 2012, diplômée il y a 4 ans, maintenant, ça va faire 4 ans là. Les conditions de travail, on nous rappelle pendant les repos, nos plannings sont changés tous les jours. Ce qui veut dire que nous, on n'a plus de vie de famille, on fait ce qu'on peut, on rentre, on est fatigué. On est en colère parce qu'il y a des choses et des soins qu'on n'a pas pu faire parce qu'il manque vraiment des moyens humains. On a une direction qu'on ne les voit pas assez dans nos services. On sait très bien qu'il y a l'ARS qui est là, mais uniquement dans les bureaux. Nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas pour qu'on explique les difficultés qu'on a et puis la souffrance qu'on a actuellement.
Comment vous sentez-vous ?
Quand j'ai commencé à faire le métier, c'était mon rêve de faire ce métier. Aujourd'hui, c'est un dégoût. Voilà, de la colère. Parce que même si ce n'est pas nos parents qui sont là, peu importe l'être humain qui va être là, on ne va pas le soigner dignement. Et ça, c'est quand même triste. On a évolué, on n'arrête pas de nous dire qu'on a beaucoup évolué. Le matériel a évolué. Mais la personne a évolué, mais de l'autre côté. Donc voilà, je trouve vraiment ce monde triste, mais vraiment triste. On n'est que des machines, on n'est pas des êtres humains, on n'est pas respectés. Et voilà, aujourd'hui, je suis triste parce que je me sens délaissée. Les personnes qui sont dans nos lits aujourd'hui, pour moi, c'est que des numéros. Et on est tous des numéros, malheureusement.
Anne-Françoise Cure, représentante du personnel délégué syndical CGT. On arrive à une criticité qui est du jamais vu, quoi. Et une fois de plus, on est là pour essayer de faire prendre conscience que l'hôpital va à sa perte et que si rien n'est fait, c'en est fini. Alors, pour les agents hospitaliers qui sont en souffrance, mais également pour la population qui n'aura plus accès aux soins avec la chance qu'on a normalement en France d'avoir cet accès qui va devenir impossible.
Ce discours, ça fait longtemps que vous l'avez, il n'y a pas grand-chose qui bouge, vous baissez pas les bras, vous continuez à vous battre.
Si on n'y croit pas, je crois que oui, voilà, c'est fait. Alors oui, on a parfois l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau parce que ça n'aboutit pas. Mais malgré tout, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est d'y croire, d'essayer de mobiliser pour que, déjà pour répondre aux agents qui viennent nous voir et qui croient en nous, qui espèrent qu'on pourra porter leur parole. Et puis également, essayer de leur dire oui, on est là, on est avec vous. Et puis voilà, mais sans tout le monde, on n'est rien. Donc on attend. Ouais.
Nous avons rencontré un peu plus tard la directrice de l'hôpital Fléria pour le point presse sur la situation Covid dans l'établissement. Frédéric Labrogoubi s'est exprimé sur cette manifestation et sur la problématique du recrutement du personnel de l'hôpital.
Je ne peux pas, en tant que directeur d'établissement, dire que j'approuve ou je désapprouve des revendications. Ce que je reconnais et ce que je légitime, c'est qu'il est tout à fait normal que les professionnels exercent effectivement leur droit de grève, leur expression par rapport aussi à une forme de lassitude et de ras-le-bol qu'ils peuvent avoir et exprimer, et aussi qu'ils remettent en perspective, et ça c'est légitime, les difficultés que rencontre aujourd'hui l'hôpital public en perspective avec les évolutions du système de santé lors des 10 dernières années, voire des 20 dernières années, et qu'ils remettent ça en situation. C'est leur droit. Et voilà, je peux comprendre qu'il le fasse, surtout dans ce contexte-là.
Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de soignants ou de personnels qui ne travaillent plus à l'hôpital, qui ont décidé d'arrêter, quoi ?
Alors oui, on le fait, c'est-à-dire qu'on suit, on suit particulièrement ce qui est de l'ordre des missions ou des demandes de disponibilité. Donc là, j'ai pas le chiffre. Hein. On a cru innocemment, je le dis, hein, c'est moi que je vais taxer d'innocence ou d'absence de réalisme, hein, je pense. Moi, j'ai cru longtemps jusqu'à cet été qu'on serait marginalement concerné par ce phénomène-là. Or, sur la fin de l'exercice, parce que je pense aussi que les gens attendent la fin d'une année pour prendre des décisions et puis se donner d'autres orientations, je crois aussi que la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, même si elle n'a pas emporté conséquences majeures pour l'établissement, elle a conduit les gens à un processus de réflexion aussi sur et les attendus de la crise et ce qu'ils voulaient faire ou pas dans le mode collectif. Et on a eu effectivement à la fois des démissions et des demandes de dispo sur la fin de l'année 2021. Ce qui d'ailleurs pouvait nous interroger, nous rendre perplexes sur la réussite d'arriver à monter en charge sur cette nouvelle vague, parce qu'on est parti avec moins de professionnels, malgré des recrutements importants qu'on a faits. On a beaucoup moins de professionnels, effectivement, que nous n'en avions lors de la première vague. Et la fatigue se rajoutant, ça fait effectivement beaucoup pour l'ensemble des équipes.
Et puis quelques cas de Covid aussi, parce que même si on est vacciné, on peut être porteur du virus, on peut avoir quelques symptômes pendant quelques jours. Donc on a accumulé effectivement ces difficultés en période de fête de fin d'année en plus. Donc voilà, il y a un impact important encore sur le système hospitalier de cette cinquième vague.
C'était Frédéric Labrogoubi, directrice de l'hôpital, et le docteur Canu, médecin référente Covid.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.